frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu, louez le Seigneur, le Dieu créateur, le souverain roi, notre Père céleste, qui nous a convoqués pour nous communiquer ses grâces, son amour et sa joie. Aujourd'hui, il nous invite à nous souvenir particulièrement de ceci. Je vous fais confiance, bannissez la peur, car pour moi, chacune de vos vies a un sens. Chacun de vous a reçu de moi un projet à réaliser. Chacun de vous est invité à répondre à cet appel. À cause de cette même promesse, que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse, parce que le Seigneur nous aime. Le Fils de Dieu est vivant. Le Saint-Esprit a fait son habitation en nous. C'est lui qui nous accueille et nous donne sa paix. En dépit du fait qu'il nous arrive de chanceler dans notre marche, nous osons dire notre foi en un Dieu qui est bon et qui nous aime. C'est pourquoi je vous invite à chanter le premier cantique « Dieu, tu es bon ».
Pour qui tu es
Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu, notre Père, car tu fais confiance à l'être humain, car tu nous fais confiance. En effet, tu as confié le ciel et la terre à nos mains malhabiles, afin que nous puissions y dessiner les traits de ton visage. Nos cœurs sont pourtant menacés par la crainte. Nous crions à toi, qui a néanmoins déposé ta grâce en nous, et qui nous a révélé ton amour afin que ton Esprit Saint nous libère de nos peurs et nous permet de faire travailler ce qu'il y a de meilleur en nous pour que nous fassions progresser la venue de ton règne sur la terre. Conscient que tu es présent au milieu de nous ce matin, nous t'implorons de nous rendre enthousiastes, audacieux et de nous délivrer de nos craintes afin que nous fassions progresser ton royaume au milieu de nos frères en humanité. Veuille accueillir notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Louons maintenant le Seigneur, mais auparavant, rappelons-nous qu'à travers une lettre que le prophète Jérémie a adressée au peuple de Dieu en exil, Dieu lui a fait une promesse extraordinaire qui disait en même temps son amour pour son peuple. Et je pense que nous aussi, nous pouvons nous approprier cette promesse, la faire véritablement nôtre aujourd'hui. Quoi que ce soit que nous vivions, que nous puissions nous rappeler de ceci. Et voici la promesse. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, parole du Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous crierez vers moi et vous avancerez. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. C'est dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, le verset 11 à 14. Nous voyons donc ainsi que Dieu s'est lié à son peuple par le lien de l'Alliance. Par le prophète Jérémie, cette lettre aux premiers exilés exprime la promesse de Dieu. Donc, frères et sœurs, quelle que soit notre condition ce jour, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il nous ouvre un avenir. Il promet une assurance. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance qui a été scellée en Jésus-Christ. Alors, rendons gloire à notre Dieu au moyen de deux cantiques chantés à la suite. Le premier, c'est « Inégalable », un chant traduit de l'espagnol. Et le deuxième, qui est fort connu de nous tous, « Je me confie en toi ». Chantons de tout notre cœur.
Là dans mon cœur, le Seigneur a mis une mélodie qui dans la nuit sombre perdurera. L'hymne de mon Dieu, là dans mon cœur, il y a un trésor d'une immense valeur qui pour toujours gardera son éclat. La présence de mon Dieu, ô Dieu majestueux, ensemble nous exaltons ton saint nom.
Thank you.
Louons notre Dieu. Merci Père, parce que tu t'es lié à nous par la nouvelle alliance scellée en Jésus-Christ. Tu as tracé un chemin de vie devant nous et tu nous invites à y marcher, quelle que soit notre situation du moment. Tu nous fais renaître à ta lumière. Merci Père, parce que tu offres à chacun les dons nécessaires à l'épanouissement de sa vie. Merci Jésus de venir nous confier de la part du Père Céleste la responsabilité de gérer les biens de ton royaume sur la terre. Merci Saint-Esprit, l'Esprit de vie, don de l'amour, puisque par toi toutes les valeurs du royaume peuvent porter des fruits en nous. Merci pour ton œuvre permanente et puissante dans nos vies. Tu œuvres à les rendre plus belles encore, en les délivrant de la crainte, mais en les fondant aussi dans la confiance au Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous savons très bien que le Seigneur exprime son amour aussi en nous indiquant le chemin de la vie. Ce matin, nous puisons dans le livre du Deutéronome et dans l'Évangile selon Matthieu, la parole de vie, devant laquelle nous exposons nos vies pour les laisser éclairer par le Seigneur lui-même. Voici donc un court extrait de ces deux livres que j'ai mentionnés, qui disent la volonté de Dieu. Écoute, Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. Je t'appelle à la liberté sous mon regard. Jésus de Nazareth est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite, nous qui sommes son peuple, à l'écouter. Il t'invite, il nous invite à l'écouter, car il a les paroles de vie à nous communiquer. Ne péchons-nous pas en n'écoutant pas le Seigneur, en parlant trop? Qu'avons-nous à t'en dire et pourquoi ne sommes-nous pas disposés à écouter notre Seigneur? Humblement, je vous invite à prier pour demander pardon au Seigneur. Seigneur, nombreux sont ceux qui parlent aujourd'hui. La radio, les journaux, la télévision, Internet, les partis, moi-même, nous-mêmes y compris, oui, y compris nos jérémiades incessantes, tous ceux qui nous troublent dans ce monde, nous écoutons si peu, nous t'écoutons si peu. Et pourtant, dans tes paroles, il y a la vie, la consolation, l'encouragement, l'espérance, et bien d'autres vertus encore qui pourraient transformer notre existence. Pour ne t'avoir pas écouté, aie pitié de nous, Seigneur, parce que nous ne te laissons même pas le temps de nous parler. Et apprends-nous à nous taire devant toi et à t'écouter d'abord. Donne-nous la force de t'écouter et d'écouter notre Sauveur Jésus-Christ. Parle, Seigneur, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Les paroles de grâce nous sont données pour nous encourager à poursuivre notre marche. Écoutons ce que le Seigneur nous dit, et ces paroles sont tirées de la première épître de Jean au chapitre 3. Voyez de quel amour Dieu le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Frères et sœurs, l'amour du Père envers ses enfants n'est pas à mettre en doute. Accueillons-le et repartons vers de nouvelles aventures forts de cet amour. Amen. Et maintenant, nous allons laisser la place au message adressé aux enfants. Et c'est David qui a le privilège de pouvoir transmettre ce message aux enfants.
Bonjour les enfants. La semaine passée, lors du culte, le pasteur a parlé à un moment des 10 commandements, qu'on appelle aussi les 10 paroles. Vous voyez de quoi je parle ? Vous les connaissez ? Il y a, par exemple, « Tu ne tueras pas », « Tu ne voleras pas ». Et puis, il y a aussi « Celui que vous chérissez » parmi tous les autres, « Celui que vous avez gravé dans votre esprit et dans votre cœur » et qui réjouit vos parents, « Celui que vous avez écrit sur tous les murs de votre chambre en grand, « Respecte ton père et ta mère ». Les 10 commandements remontent au récit de l'histoire de Moïse, qui occupe une bonne partie des premiers livres de la Bible. Ce récit commence avec la situation des Israélites qui sont esclaves en Égypte et qui souffrent depuis à peu près 400 ans. C'est alors que Dieu décide de faire bouger les choses et de rendre la liberté à son peuple. C'est pour cela qu'il envoie Moïse, son serviteur, défier le Pharaon en son nom, en opérant plusieurs grands miracles. Finalement, après de nombreux entêtements, le Pharaon permet au peuple de s'en aller. Et c'est alors que commence pour les Israélites un très long voyage, dans le désert, en direction du pays que Dieu a promis de leur donner. Et peu de temps après avoir commencé ce voyage, le peuple arrive au pied d'une montagne. Et c'est au pied de cette montagne que Dieu donne ses 10 paroles. Ces 10 paroles sont une loi de vie, une loi qui permettra au peuple de conserver sa liberté et de marcher main dans la main avec Dieu. Et vous savez par quoi commencent ces 10 paroles ? D'abord, par un rappel de qui est Dieu. Dieu dit « Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. » Et Dieu donne ensuite son premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » C'est sur ce commandement que j'aimerais que nous nous attardions ce matin. Ce commandement est assez facile à comprendre. Dieu dit qu'on ne peut pas avoir d'autre Dieu que lui. Pour un chrétien, cette parole semble facile à respecter, n'est-ce pas ? Cela nous semble évident. Qui aurait l'idée, par exemple, de faire une prière en s'adressant à un autre Dieu que le Seigneur ? Et pourtant, à bien y réfléchir, ce commandement est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et peut-être nous arrive-t-il de ne pas toujours y obéir. Et je vais vous l'expliquer par une petite histoire. Billy Joe vit avec son papa et sa maman dans un petit appartement à Bruxelles. Le papa travaille à la poste et la maman cherche du travail parce que la vie est chère et qu'un seul travail n'est pas suffisant. C'est pourquoi la maman envoie des lettres, partout, et parcourt toutes les rues de la capitale pour essayer de trouver un travail. Et après plusieurs semaines de recherches intensives, elle reçoit un coup de téléphone. « Bonjour madame, je vous appelle pour vous dire que nous vous avons trouvé du travail, mais ce n'est pas tout prêt. » Il va falloir vous déplacer sur Liège. Ça vous intéresse ? Le papa, la maman et Billy Joe en discutent. Et ils se décident. Ils vont déménager à Liège. Après tout, le papa pourra trouver facilement un emploi à la poste là-bas. La petite famille se trouve une nouvelle maison, met toutes ses affaires dans des caisses et part pour Liège. Alors que papa et maman défont les caisses, ils disent à Billy Joe « Tiens mon grand, pendant que nous sommes occupés ici, va dans ta nouvelle chambre, déballe et range tes affaires. » Et Billy Joe prend toutes ses caisses et les monte dans sa nouvelle chambre. Et il commence à les déballer et à ranger leur contenu. Quand il a fini, il appelle ses parents tout fiers. « Papa, maman, venez voir, j'ai terminé !» Le papa et la maman montent et regardent le travail accompli par leur fils. Dans la plus grande armoire, Billy Joe y a mis sa télévision, ses jeux vidéo, ses mangas et ses bandes dessinées, et puis aussi sa tirelire avec tout son argent. Tout est magnifiquement bien rangé. Dans celle d'à côté, un peu plus petite, Billy Joe y a mis ses photos de famille, ses photos avec ses copains, ses trophées. Dans celle d'à côté, encore un peu plus petite, ses vêtements. Et puis encore à côté, il reste une caisse sur laquelle il est écrit au marqueur « Affaires d'église, Bible, école du dimanche ». Le papa et la maman se regardent un instant et font signe à Billy Joe de s'approcher. « Eh ben alors, mon petit biquet, c'est quoi cette caisse qui traîne encore par terre, là ?» Et Billy Joe répond « Bah oui, j'y peux rien, moi. Je n'avais plus de place pour ranger tout ça. Alors, je l'ai laissé là. » Est-ce que vous voyez où je veux en venir avec mon histoire, les enfants? Par cette illustration, je voulais vous montrer que lorsque Dieu explique que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu que lui, il dit en fait que rien d'autre que lui ne devrait occuper la première place dans notre vie. Dieu ne veut pas passer après nos séries, nos films, nos jeux, nos amis, notre famille, notre argent, nos différentes passions. Cela ne veut évidemment pas dire qu'on ne peut rien faire d'autre que prier et lire la Bible. Ça veut dire que Dieu doit occuper la première place de notre esprit et que nos décisions dans la vie doivent être prises à la lumière de sa parole. Il faut nous demander: est-ce que ce que je fais honore Dieu? Mais évidemment, toutes ces questions, on ne pourra nous les poser que si nous mettons Dieu à la première place. Il y a un verset dans la Bible, en Matthieu 6, 33, qui dit ceci. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. C'est ce que je nous invite tous à faire. Cela nous demandera parfois de faire des sacrifices, ou bien de nous remettre en question, de remettre peut-être de l'ordre dans nos priorités. Mais cela en vaut la peine. Prions. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier?
On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on parle à Dieu.
Seigneur notre Dieu, qu'il est difficile parfois de te laisser la première place de notre vie. Nous voulons la remplir de tellement de choses. Alors pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, dans cette prière, nous voulons te demander de nous aider à t'adorer comme tu le demandes. Que ton esprit nous remplisse et nous mette toujours à ton écoute. Afin que tu aies vraiment la première place dans notre vie. Au nom de ton Fils, Jésus. Amen.
Et maintenant, nous avons le privilège de lire la parole de Dieu. Et ce matin, c'est l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Mais avant d'ouvrir la Bible et de nous mettre à l'écoute de la parole, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, que ton évangile soit une puissance dans nos vies, dans la vie de ton Église, une énergie, une force pour nous libérer des craintes, des peurs, pour briser les murs de nos prisons mentales et émotionnelles, pour libérer nos volontés de tous ceux qui les anesthésient, qu'il nous permette d'être libres afin de mieux te connaître, de mieux t'aimer et de mieux te servir. Esprit de puissance, de force et de sagesse, esprit de lumière et de sainteté, viens maintenant faire dans nos vies et dans l'Église ton œuvre de salut, dans le nom et pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Matthieu 25, du verset 14 à 30. Nous lisons. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième un seul en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla, creusa un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. »
la confiance et la responsabilité et non la peur dans ta relation avec Dieu. Tel est le thème que je vous propose ce matin. Frères et sœurs en Christ, si vous suivez l'actualité, vous pouvez vous rendre compte combien des statistiques sont inquiétantes, les statistiques qui concernent l'évolution de la pandémie et ses conséquences tragiques. Et cela, nous dit-on, va encore s'aggraver davantage. Quand tout cela va-t-il s'arrêter? Est-ce que cela va seulement s'arrêter? Certains un peu plus optimistes nous disent que ce n'est pas la pire des périodes de l'histoire de l'humanité. Pensez à la période très sombre de la grippe espagnole en 1920 avec 500 millions de personnes infectées et 100 millions de morts. Ils n'avaient à l'époque ni la connaissance ni les moyens à notre disposition aujourd'hui. Alors, les optimistes nous disent donc, soyons déjà contents. Quoi qu'il en soit, pour faire face à toute situation présente ou à venir, pour faire face à l'inconnu, notre état d'esprit et la source qui le nourrit importent beaucoup. C'est pourquoi c'est peut-être à cette source-là qui nourrit notre esprit qu'il convient de se tourner. Le chrétien trouve sa force et son inspiration dans la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et dans la communion avec lui. Or, les auteurs inspirés nous parlent du jour du Seigneur et du retour du Seigneur en gloire et donnent ainsi une perspective à notre vécu. En d'autres termes, les auteurs inspirés disent « Nous ne sommes pas en train de tourner en rond. L'histoire n'est pas en train de se répéter comme dans un cycle. Non, l'histoire tend vers un but, vers un point de mire, un point focal, à savoir le jour du Seigneur, qu'on peut appeler autrement la parousie, c'est-à-dire le jour de la manifestation en gloire du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir. Le retour de Jésus sera soudain, car il viendra comme un voleur, c'est-à-dire à l'improviste. Ce jour-là sera visible et corporel. Oui, tout œil le verra. Le jour du Seigneur correspond au moment à la fois merveilleux pour les fidèles de Jésus-Christ et terrible pour ceux qui auront rejeté Jésus-Christ, car Dieu se révélera comme le juge du monde et rétablira son règne. Et il existe dans l'Écriture plusieurs attestations, oui, dans l'Ancien Testament notamment, de la part des prophètes. Et nous trouvons ces attestations chez Ésaïe, chez Ézéchiel, Joël, Amos, Sophonie, Zacharie, qui tous parlent du jour du Seigneur. Nous le trouvons aussi dans les écrits de l'apôtre Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, mais aussi dans l'Apocalypse. Et puis le Seigneur Jésus lui-même a parlé de ce jour dans ses discours derniers que Matthieu a rassemblés dans le chapitre 24 et 25. Jésus a surtout indiqué comment il convient de se préparer et de vivre au quotidien dans la perspective de ce jour-là. Ces discours ont pour caractéristique un appel à la vigilance. Jésus connaît le danger qui guette ses disciples pendant le temps de son absence physique, à savoir une certaine léthargie, une sorte de sommeil spirituel, une sorte d'anesthésie qui risque de s'emparer de ses disciples. C'est pourquoi il multiplie des appels à la vigilance. Je l'ai mentionné les derniers dimanches lors des prédications passées. Trois paraboles en précisent le sens. Celle de ce matin, la parabole des talents, en fait partie. Alors, de quoi s'agit-il? Un petit résumé de cette parabole. Jésus, dans toute cette partie, parle du royaume. Et il dit, le royaume de Dieu est une réalité qui vient, mais dont les racines plongent dans le présent et s'expriment dans une éthique du travail et de la responsabilité. Alors dans la parabole, il raconte, un maître, avant de partir en voyage, confie à trois de ses serviteurs des fortunes énormes, mais différenciées selon la capacité de chacun. Sachant qu'un talent, à ne pas confondre avec notre compréhension actuelle de capacité, ici c'est une valeur monétaire, donc sachant qu'un talent équivaut à 17 années de travail d'un salaire moyen, parlons donc en euros. Au premier serviteur, il donne 5 talents, c'est-à-dire qu'il donne l'équivalent de 3 millions d'euros. Au second, 2 talents, soit l'équivalent de 1 200 000 euros. Et au troisième, 1 talent, soit l'équivalent de 600 000 euros. Puis il s'en va en voyage. Un long moment d'absence. Les deux premiers serviteurs se mettent aussitôt au travail. Ils doublent leur avoir, tandis que le troisième, lui, enterre la fortune et la protège dans le sol. Au retour du maître, chacun rend compte du fruit de son travail. Et le maître loue les deux premiers serviteurs qui avaient fait fructifier sa fortune et punit le troisième serviteur qui avait enterré la fortune qui lui avait été confiée. Ça, c'est donc la parabole. Mais que signifie cette parabole? Pour dégager les enseignements de cette parabole, considérons les différents acteurs et leurs motivations. Le premier acteur, c'est le maître de la parabole. Ce maître est d'une générosité débordante au vu des sommes d'argent mises en jeu. En leur confiant à chacun une telle somme, il témoigne de la confiance envers ses serviteurs. Il s'en va et ne donne aucune directive précise. En ne donnant aucune instruction précise sur comment fructifier sa richesse, il témoigne tout simplement de la confiance envers ses serviteurs. Il est crédite d'une compétence en matière de gestion financière. Il les laisse libres dans la mise en valeur de leur créativité. Il a confiance au sens de leur responsabilité. Il leur fait confiance et espère qu'ils utiliseront au mieux sa fortune. Il ne les enferme pas dans un règlement à appliquer bêtement. Il les traite en adultes, en hommes responsables, capables d'initiative. En se coulant dans la logique financière, le maître espère recevoir plus qu'il n'a donné. Il veut que l'argent fasse des petits jusqu'à doubler le capital. Il convient de noter que l'argent ici ne sert qu'en tant que support concret du récit pour transmettre une recommandation, à savoir le devoir de faire valoir ce qu'on a reçu dans un esprit d'amour, d'attachement responsable. On peut donc entendre par là, non seulement l'argent, mais aussi nos talents naturels et les dons spirituels que Dieu nous accorde, ainsi que tous les biens que Dieu met à notre disposition et qui lui appartiennent. Le maître de la parabole est l'image de Dieu, un Dieu d'amour extrêmement généreux qui fait confiance à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, à qui il a donné son Fils, son unique, dans lequel il a fait habiter le Saint-Esprit, dispensé des charismes spirituels et naturels, à qui il confie la mission de gérer la terre, de la cultiver. Dieu donne à l'homme une intelligence pour transformer le monde en responsable, en gestionnaire, en sachant qu'un jour, il aura des comptes à rendre au propriétaire, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Mon frère, ma sœur, sais-tu que le Seigneur Dieu te fait confiance? Il t'a doté de dons multiples et variés. Le sais-tu? Sais-tu qu'il attend que tu les fasses fructifier? L'idée que nous avons de Dieu est le fond qui nourrit notre foi et notre éthique. Il faut donc qu'elle soit conforme à la révélation de Dieu dans sa parole, telle que Jésus nous le révèle, et non telle que nous pouvons seulement l'imaginer. Voici donc pour le maître. Et maintenant, deux autres acteurs, ce sont les deux premiers serviteurs. Les deux premiers serviteurs de la parabole ont compris que le maître leur a fait confiance. Ils veulent se montrer dignes de cette confiance. À la confiance du maître, ils répondent aussi par la confiance et la responsabilité. Ils veillent à ne pas décevoir l'attente du maître. Aussitôt, ils se mettent au travail. Ils s'emploient à faire valoir la fortune reçue. Cet empressement montre qu'ils n'agissaient pas simplement par devoir, mais par amour. Les affaires de leur maître leur tiennent à cœur. Ils ne se sentent pas exploités, bernés, brimés, mais bien honorés, valorisés par la confiance qui leur est faite. Ils croient à la bienveillance de leur maître. Petite question, est-ce bien ainsi que nous voyons la tâche que Dieu nous confie dans tous les domaines? Comme une marque de confiance, une grâce, mais qui nous met en position de responsabilité et nous appelle à la fidélité, est-ce ainsi que nous voyons les choses? Ça mérite réflexion. L'autre acteur, c'est le troisième serviteur. Le troisième serviteur, aussitôt le maître parti, creuse la terre et enfonce le talent. Il consacre son énergie à l'enterrement. Il la met au service de la mort et non de la vie. Vous connaissez sans doute des personnes qui, quand elles apprennent qu'un tel est malade et a donc besoin de soins, ne bougent pas leurs petits doigts. Mais dès qu'elles apprennent le décès de la même personne, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour enterrer le mort. Le comportement de ce troisième serviteur peut nous paraître étrange. Un trou dans la terre. Quelle drôle d'idée. Pas si drôle que ça, quand on sait que, d'après la législation rabbinique, le dépositaire d'une somme d'argent était dégagé de sa responsabilité en enfouissant cet argent dans la terre, puisque c'était là la plus sûre protection contre les voleurs. Il a une attitude légaliste. Son légalisme est inhibant, paralysant. Enterrer le talent, c'est une image de la mort. Ce serviteur ne veut rien faire qui comporte des risques. Il cherche à s'assurer, à se garder de l'échec possible. Il veut éviter de commettre de fautes. Mieux vaut ne rien faire que mal faire, pense-t-il. Il n'a rien fait de mal, se dit-il. Sa responsabilité est ainsi dégagée. La solution qu'il a trouvée lui paraît donc astucieuse. La cause principale d'un tel comportement nous est indiquée au verset 24. C'est l'image qu'il a de son maître. Une mauvaise et fausse image, celle d'un homme dur, exigeant, qui moissonne là où il n'a pas semé. Sous-entendu, un voleur des pauvres, d'exploiteur des autres. Pourquoi ce discours d'antagonisme? Parce qu'il est animé par une peur paralysante. La peur l'empêche d'agir. À la confiance du maître, il répond par la peur et par un dur jugement envers le maître. Il n'a pas perçu la confiance, il a vu un piège et il est devenu méfiant, d'où cette attitude. Et pourtant, nous savons que les grands inventeurs ont chacun osé sortir des sentiers battus. Ils n'ont pas eu peur du conformisme, de la critique facile. Ils ont osé imaginer, osé créer du nouveau. Frères et sœurs, pensez à la difficulté rencontrée dans nos églises quand on veut innover, quand on veut introduire du changement. La peur nous tenaille et à ce moment-là, nous préférons le statu quo au changement, même si le statu quo est mortifère. Néanmoins, sachez que la peur de mal faire est un frein sérieux à faire fructifier les dons reçus de Dieu. Il faut de l'audace pour le fructifier. Une trop grande prudence peut s'apparenter à l'immobilisme. C'est le problème du troisième serviteur. Il croyait bien faire en ne faisant rien avec les dons reçus. Le jugement du maître est sévère, et nous dirons même très sévère. Alors, peuple de Dieu, enfant de Dieu, choisis la confiance et la responsabilité et non la peur. Car quelqu'un a dit, la peur, oui, la peur paralyse la raison, détruit l'imagination, tue la confiance en soi, mine l'enthousiasme, décourage l'initiative, conduit à l'incertitude et pousse à l'hésitation. Elle efface tout le charme d'une personnalité, détruit toute possibilité d'une pensée juste, détourne toute concentration vers l'effort. Elle vainc la persévérance, annihile la volonté, écarte toute ambition, obscurcit la mémoire et engendre l'échec. Elle tue l'amour et assassine les plus beaux sentiments. Fin de citation. Alors, frères et sœurs, comment entendre cette parabole aujourd'hui? Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est quelle image de Dieu avons-nous? Cette parabole invite à mettre en lumière comment répondre aux sollicitations de Dieu, à l'invitation que Dieu nous fait d'être ses serviteurs. Cette parabole parle de l'être que de l'avoir. Elle nous dit combien Jésus s'est évertué à déconstruire l'image d'un Dieu justicier, gendarme, despote, oppresseur, un Dieu de mort, pour laisser la place à un Dieu généreux, un Dieu qui se plaît à faire confiance à l'homme en lui confiant généreusement ses dons. Un Dieu qui ose la confiance, qui rend libre dans l'entreprise, libre dans la créativité, libre dans la responsabilité, libre dans l'action. C'est une invitation à oser répondre à la confiance que Dieu nous fait par la confiance dans notre être, dans notre action. Jésus nous dit, « Ne soyez pas passifs dans la vie au nom de Dieu. Ne vous croisez pas les bras de peur de mal faire. Osez la confiance parce que Dieu lui-même a osé vous faire confiance. » Deuxième chose à entendre aujourd'hui, c'est le trésor, le talent. C'est tout l'héritage de Dieu qui nous est confié gratuitement, à savoir la vie, l'être, l'amour provenant de Dieu, la promesse du royaume, la grâce de Dieu, l'évangile, la parole de Dieu, le pardon, tout l'enseignement du Seigneur Jésus et des apôtres, la présence de son esprit en nous, la liberté, etc. Ce ne sont pas des cadeaux à ranger dans un coffre, mais à partager, à faire fructifier. Prenons un seul exemple, celui de l'évangile reçu, et que nous devons faire fructifier en le répandant en tant qu'Église et en tant que disciples du Christ, tout autour de nous. En effet, l'Évangile est la puissance de Dieu qui transforme les vies. Il apporte le salut éternel. Jésus disait, « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» L'Évangile réconcilie l'humain avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. L'Évangile nous ouvre à une qualité de vie surnaturelle. Par la présence du Saint-Esprit en nous, il donne un sens à notre existence. Il lui donne une perspective. Voilà une fortune que nous pouvons faire fructifier en tout temps. Reconnaissons que bien souvent, nous sommes frileux pour partager l'Évangile autour de nous. Et le Seigneur nous encourage ce matin. Choisis la confiance et la responsabilité et non la peur dans ta relation avec moi. Il nous faut donc déconstruire tous les mécanismes de la peur, de la mort, de la paresse, du fatalisme, de la pauvreté, du légalisme, pour construire, pour mettre en place des mécanismes de la confiance, de la créativité, de la vie. Souvenons-nous de ce commandement, « Tu ne tueras pas ». Osons aller même plus loin en disant, « Tu ne tueras pas l'image de Dieu qui est en toi et chez les autres. Tu ne tueras pas la vie. Tu ne tueras pas la créativité. » Tous ces dons gratuits doivent être mobilisés au service du royaume de Dieu, de l'Évangile, de la vie nouvelle en Christ. Que gagnons-nous en ayant peur de Dieu, peur d'entreprendre ? Non, frères et sœurs, quittons le giron du troisième serviteur, le giron de la peur. Alors en terminant, dans l'attente où nous sommes du retour du Seigneur, rejoignons le giron des deux premiers serviteurs, sachant que le Seigneur, dans cette parabole, souligne non seulement qu'il faut être vigilant pendant l'absence du Maître et être toujours prêt, quel que soit le moment du retour, mais aussi qu'il faut travailler avec les richesses que le Seigneur nous confie en tant que disciples. Tout autre comportement sera réprimandé. L'engagement dans le travail est en soi une vigilance et une voie qui permet de fructifier les dons reçus de la part de Dieu. Alors, que nous reste-t-il de faire après avoir écouté cette parole ? C'est tout simplement de prier. Seigneur, viens-nous en aide pour l'amour et la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Prions. Seigneur, entends à nouveau cette prière que nous t'avons déjà adressée il y a quelques semaines. Merci Père, parce que tu nous fais renaître à ta lumière. Merci parce que tu offres à chacun les dons nécessaires à l'épanouissement de sa vie. Merci Jésus de venir nous confier de la part du Père Céleste la responsabilité de gérer les biens de ton royaume sur la terre. Merci Esprit de vie, toi qui es le don de l'amour du Père, merci puisque par toi toutes les valeurs du royaume peuvent porter des fruits en nous. Seigneur, de ta parole qui est la vérité, nous te prions de nous sanctifier par ta vérité. Nous savons que tu reviens bientôt. Garde-nous du sommeil spirituel. Garde-nous de l'insouciance, de la suffisance de croire à un seul instant que nous pouvons nous passer de ton esprit pour faire ta volonté. Fais de nous des mendiants de ton esprit parce que depuis la Pentecôte, le don de ton esprit est promis à chacun d'entre nous, à chacune des communautés chrétiennes. Puisse ton Esprit Saint répandre la surabondance de ses grâces, de ses charismes sur ton Église. Puisse-t-il renouveler notre amour, notre zèle, notre enthousiasme pour toi et à travers le service auprès de nos frères et sœurs en humanité. Que ton esprit nous donne une claire vision du message que nous devons délivrer, des tâches que nous devons entreprendre. Inspire à ton Église une prédication vraiment prophétique, une parole qui aille au-devant de l'espérance des hommes. Que par notre témoignage, l'Évangile manifeste sa puissance de renouveau. Seigneur, te prions pour tous les nôtres, éprouvés par la pandémie du Covid-19. Souviens-toi des Servotes, des Maluma, des Chouaté et de bien d'autres encore. Nous pensons à tous les nôtres qui sont en première ligne parce que dans le corps médical et soignant, guide-les, protège-les, renouvelle leur force et leur amour pour ce qu'ils accomplissent en ton nom. Nous te prions, en fait, pour tout le personnel soignant, d'ici et d'ailleurs. Sois leur soutien en pareilles circonstances. Te prions pour nos autorités, afin que tu leur donnes la sagesse et qu'elles nous conduisent pour le plus grand bien de tous et surtout pour les plus fragiles d'entre nous. Hâte le temps de la délivrance, Seigneur. Que ce temps soit aussi celui où l'homme s'arrête dans sa course effrénée à la poursuite du vent et qu'il te cherche et te trouve. Qu'il te plaise, Seigneur, de sanctifier ton nom, de faire advenir ton règne, de faire en sorte que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car à toi seul appartiennent la gloire, l'honneur, la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Premièrement, comme nous ne sommes plus en présentiel et nous ne savons pas combien de temps, il reste la possibilité d'apporter notre offrande par voie bancaire, par virement bancaire. Donc il y a le numéro de notre compte qui est dans le bulletin paroissial. Merci de soutenir l'Église, car même si les portes sont fermées, il y a toujours des engagements financiers que l'Église doit honorer. Et vos dons et votre offrande seront accueillis avec reconnaissance. Alors, vous annoncez que dans cette période où les présentiels ne sont pas possibles, mais nous allons avoir nos réunions par visioconférence. Par exemple, le jeudi à 19h30, le jour habituel de notre étude biblique, nous aurons étude biblique du livre de l'Apocalypse et ce sera le chapitre 18 et 19. À 19h30, donc par visioconférence. Il suffira tout simplement, si vous voulez y prendre part, il suffira de me contacter, c'est-à-dire contacter le pasteur. Et à ce moment-là, il vous donnera le lien pour que vous puissiez vous joindre à tous ceux qui, ce jour-là, seront connectés. Je voudrais rappeler à ceux qui sont intéressés et qui participent que nous aurons cet après-midi à 14h un enseignement pour les couples par visioconférence. Donc 14h, enseignement pour les couples par visioconférence. J'aimerais vous encourager à maintenir les contacts entre nous par les moyens disponibles, tous les moyens disponibles. Maintenant, ce contact fraternel, rompons ainsi avec la solitude et en nous encourageant et en priant les uns pour les autres. Demain lundi à 19h30, il y a consistoire par visioconférence. Merci et je vous encourage à continuer à prier pour cette situation, à prier pour ceux qui sont atteints et que le Seigneur puisse nous sortir de cette pandémie, afin que nous reprenions une vie plus ou moins normale. Je vous invite maintenant à recevoir l'exhortation, la bénédiction et les paroles d'envoi. L'Esprit de Dieu nous a rendus conscients de nos capacités. Il faut maintenant tirer parti de ce que nous avons entendu et reçu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa lumière sur chacun de nous, qui nous conduise et qui nous soutienne. Allons dans la paix, dans la joie et dans la force de Dieu, et mettons à sa disposition notre temps, nos talents et nos trésors. À la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et nous terminons en chantant ensemble « Confie à Dieu ta route » qui est dans Arc-en-Ciel. À dimanche prochain.
Tout.